Bonsoir. Situation politique au Burundi, des heurts opposent les manifestants aux forces de l'ordre à Bujumbura. Depuis l'annonce samedi dernier de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel, plus de 2000 Burundais ont trouvé refuge en RDC suite à cette tension. Quelle lecture faire de cette situation? Nous recevons comme invité professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Voilà, on me dit plutôt que c'est le professeur Philippe qui est en ligne. Professeur Philippe Rétiens, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Ça va bien, merci professeur. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Anvers en Belgique. Vous travaillez sur la région des Grands Lacs depuis plus de 40 ans. Et nous recevons également le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Burundi est sous tension depuis l'annonce samedi dernier de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Des manifestations violemment réprimées par la police ainsi que des arrestations sont enregistrées. Les détails dans cet entretien entre Berry Franklin Luchaka et Fiston Goma.
Fiston Goma, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir auditrice et auditeur de Radio Capi.
Dites-nous quelle est la situation qui prévaut actuellement au Burundi.
Oui, samedi dernier, Pierre Nkurunziza a été désigné à 96% par le congrès du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, comme son candidat à la présidentielle. Plus de 800 membres occupant des plus hautes responsabilités au sein du parti, tant au niveau national, provincial et communal, ainsi que de personnalités nommées par décret appartenant au parti présidentiel, ont pris part à ce congrès extraordinaire autorisant ainsi Pierre Nkurunziza à postuler pour un troisième mandat présidentiel. Et c'est cette position du parti présidentiel qui est à la base des manifestations populaires qui semblent se poursuivre ce mardi dans la capitale burundaise. Selon Claver Nkuru, un confrère à Bujumbura, la ville est sous tension depuis dimanche dernier. Au moins 7 personnes, dont un policier, ont été tuées, plus de 50 blessés et plus de 300 personnes arrêtées et emprisonnées. L'armée a dû déployer des éléments dans la ville pour limiter les dégâts, car il y a toujours confrontation entre manifestants et policiers, et la RPA, une radio privée, a été fermée. Elle n'émet plus que dans la capitale.
Que dit la Constitution burundaise à ce sujet?
Les dispositions de la Constitution burundaise semblent être controversées. La Constitution prévoit 2 mandats, mais dans un article, il est dit que le président de la République est élu au suffrage universel une fois renouvelable. Le parti au pouvoir allègue que pour le premier mandat de 2005, le président a été élu par le Parlement et non au suffrage universel. De leur côté, les opposants qui sont contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza se fondent essentiellement sur les dispositions des accords d'Arusha et de la constitution du Burundi qui disent qu'aucun président ne peut dépasser 2 mandats. Et là, chacun tire la couverture de son côté.
Et aujourd'hui, on parle des Burundais qui sont réfugiés en RDC et dans d'autres pays de la région. Quelle est leur situation?
Au cours d'une réunion d'échange et d'information organisée hier lundi entre le ICER, les affaires humanitaires et les agences des Nations Unies sur la situation de l'afflux de réfugiés burundais, il a été constaté que la situation évolue très vite sur le terrain. Selon les rapports de cette rencontre, 65 nouveaux arrivants burundais ont été enregistrés au ICER en Tanzanie le 16 avril dernier. 9000 demandeurs d'asile burundais sont arrivés le 20 avril au Rwanda. Ici en RDC, on compte 2740 personnes avec une moyenne de 400 personnes par jour qui traversent la frontière. Ils sont répartis dans plusieurs villages entre les territoires d'Ouvira et de Fizi en provenance de Chibitoke, Bubanza et Ngozi. 848 nouveaux arrivants ont été enregistrés en date du 23 avril 2015. Pour l'instant, ils logent dans des familles d'accueil ou chez d'autres réfugiés burundais vivant en RDC. À cela s'ajoutent les rapatriés spontanés congolais qui sont autour de 325 personnes, affirme le HCR. Pour l'instant, une assistance ponctuelle est apportée à ces personnes en termes de vivres et non-vivres.
Fiston Goma Mayabala, merci et bonne soirée chez vous.
À vous autant, merci.
Merci, monsieur Berry Franklin Luchaka et Fiston Ngoma Mayabala. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, comment vous analysez la situation politique au Burundi?
Cette situation me semble très préoccupante. Il apparaît clairement que la situation du Burundi, un Burundi qui est un pays frontalier de la RDC, va avoir un impact significatif sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Mais en fait, il faut mieux situer la question du Burundi à partir des accords d'Arusha. Et les accords d'Arusha avaient posé un constat à deux volets. Et ce constat me semblait très pertinent. Le premier constat, c'est qu'en fait, le conflit au Burundi est fondamentalement politique, mais avec des dimensions ethniques extrêmement importantes. Le deuxième constat, c'est que c'est un conflit découlant d'une lutte de classe politique pour accéder au pouvoir ou s'y maintenir. Et ce constat, vous le retrouvez dans l'article 4 de l'accord d'Arusha. Déjà, la lutte pour l'accès au pouvoir ou s'y maintenir était identifiée comme étant la principale cause de conflit. Et quand aujourd'hui, nous avons affaire à un scénario du genre pérennisation d'un acteur politique au pouvoir, on a véritablement peur. On s'est dit, est-ce que l'accord d'Arusha a résolu durablement le problème? Je crois que non. Là, véritablement, il y a une question, il y a une situation assez chaotique qui nécessite que non seulement le Burundi s'implique, mais que tous les acteurs de la région s'impliquent pour trouver des solutions durables. Mais quand vous regardez la situation, parce que la lutte ou le maintien de chefs d'État au pouvoir est devenue une question qui n'est pas seulement burundaise, mais qui est devenue une question africaine. Pas plus tard qu'il y a quelques années, vous avez des chefs de l'État de la Tunisie, du Togo, du Cameroun, du Niger, du Tchad, de l'Ouganda, qui ont systématiquement modifié l'article qui limitait le nombre de mandats du chef de l'État.
Et donc, professeur, pour ce qui concerne le Burundi, l'accord d'Arusha serait le péché originel?
Non. Cet accord, quand vous le lisez, il est clair. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le mandat, il disait aucun chef de l'État ne peut dépasser deux mandats. C'était bien clair. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais je l'ai lu entièrement. Il a beaucoup de pages, il a 188 pages. Il est très clair là-dessus. Et vous savez que c'est de l'accord d'Arusha que a été posée les bases de l'organisation politique administrative du Burundi d'aujourd'hui. Tout part de là. C'est cet accord qui a mis ensemble les différents Burundais, les différentes factions politiques, au point aujourd'hui qu'on a un pays qui a une paix, mais une paix encore fragile. Et du coup, ce qui arrive aujourd'hui doit être une alerte, non seulement pour le Burundi, mais pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique de manière générale.
Alors, professeur, pourquoi le président burundais, selon vous, est-il resté sourd aux appels de la communauté internationale, aux multiples pressions exercées de part et d'autre?
Bon, ça, c'est aussi la dynamique du pouvoir. Quand on est en dehors du pouvoir, on tient un discours et une fois dedans, on tient un autre. Il n'est pas le seul à tenir ce genre de discours. Quand vous regardez à côté de nous, au Congo-Brazzaville, vous avez un scénario analogue. Mais il y a des chefs de l'État africain qui ont eu le courage de dire, eh bien nous, c'est fini. Vous avez le président de Tanzanie qui a déclaré qu'il était prêt à prendre sa retraite politique. Vous avez le président du Bénin qui a déclaré qu'il n'est candidat à rien d'autre.
Et le président nigérian qui a accepté sportivement sa défaite.
Exactement, le président nigérian a accepté de partir. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand nous regardons également ce qui se passe au Burundi, on s'aperçoit bien qu'en réalité, la limitation de mandat présidentiel en Afrique, dans les pays où elle n'a pas encore été faite, elle est devenue un levier qui fait avancer la démocratie. Parce qu'on sent l'appropriation de la démocratie par les forces sociales, par les populations qui se mobilisent. Et on voit qu'il y a véritablement là une appropriation de cette démocratie par les forces sociales. Et ça, ça peut faire avancer la démocratie.
Alors professeur, peut-on craindre que la situation au Burundi n'embrase la région des Grands Lacs?
Il y a beaucoup de craintes. Quand vous regardez aujourd'hui, l'un des pays, étant donné sa situation de fragilité, le plus exposé se trouve être la République démocratique du Congo, qui accueille de nombreux réfugiés. On n'oublie pas qu'il y a quelques années, les réfugiés venus du Rwanda ont amené une cohorte de problèmes que nous n'avons jamais résolus jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on ne connaît pas aujourd'hui quels sont les problèmes que vont nous amener les réfugiés rwandais. Et sur cette question, je crois que les politiques congolaises doivent être extrêmement prudentes pour savoir comment gérer la situation qui se passe au Burundi avant qu'il ne soit tard.
Professeur Philippe Rétiens, vous êtes professeur à l'université d'Anvers en Belgique. Vous travaillez sur la région des Grands Lacs depuis 40 ans. Professeur, vous avez publié une réflexion, une analyse sur les différents scénarios qui pourraient arriver au Burundi. Professeur, comment vous percevez la situation politique au Burundi?
Oui, je pense qu'il faut d'abord voir la situation constitutionnelle, bien évidemment. Je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue de Kinshasa vient de dire. Hein. Je pense que c'est une excellente analyse. La constitution burundaise est extrêmement claire en réalité. Hein. On veut insérer des interprétations qui me paraissent peu tenables. La constitution dit que le nombre maximal de mandats est de 2, et ça veut dire que le président Nkurunziza est arrivé au terme de son second mandat. Il ne faut même pas invoquer l'accord d'Arusha, qui est vrai, c'est un accord fondateur de l'ordre politique et constitutionnel burundais, mais la constitution elle-même est claire. L'autre article auquel on fait référence, l'article 302, est une disposition transitoire qui n'avait trait que à la période, ce qu'on appelle la première période post-transition, c'est-à-dire entre 2005 et 2010, et cette disposition ne peut plus être invoquée aujourd'hui. L'idée étant que le président Nkurunziza, pour son premier mandat, a été élu par le Parlement, par les deux chambres du Parlement, et que donc ce mandat ne compte pas. Ça, évidemment, constitutionnellement, cela ne tient pas la route. Maintenant, j'en arrive à votre question. J'ai, dans un papier publié il y a quelques jours, évoqué un certain nombre de scénarios qui seraient possibles, mais que je ne considère pas comme inévitables. D'ailleurs, c'est tout à fait spéculatif, hein, ce que j'ai écrit est spéculatif. Qu'est-ce qui arriverait si ceci ou ceci se matérialise? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, bon, mon premier scénario n'est pas, en tout cas pour le moment, n'est pas réalisé, puisque je supposais qu'une possibilité était que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, propose un autre candidat que le président Nkurunziza. Or, il y a d'autres candidats tout à fait valables au sein de ce parti qui feraient des présidents tout à fait décents. Bon, maintenant, on en est au deuxième scénario, bien évidemment, puisque le parti a proposé M. Nkurunziza. Et là, on commence évidemment à spéculer. On voit déjà aujourd'hui à Bujumbura et dans d'autres villes, notamment Gitega,
on voit déjà des manifestations, des violences, des arrestations, voire même à Bujumbura, des personnes qui ont été tuées. Il y a une société civile et une opposition et une presse et une église catholique notamment extrêmement vibrante au Burundi qui s'oppose à une nouvelle candidature du président Nkurunziza. Donc je n'exclus pas qu'il y ait à l'intérieur du Burundi une extension de ces violences et que cela pourrait même, en fin de parcours, engendrer une nouvelle guerre civile au Burundi, pour plusieurs raisons, puisqu'il y a par exemple d'anciens mouvements rebelles qui n'ont pas abandonné toutes les armes au moment des processus de démobilisation, et ces mouvements-là pourraient tenter, y compris d'ailleurs une tendance au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pourrait tenter de reprendre le chemin de la guerre civile. On observe également une attitude différente de la police au Burundi qui est fort acquise au président Nkurunziza, semble-t-il, et l'armée qui, elle, prend une position beaucoup moins tranchée, qui essaye d'éviter d'être aspirée dans la politique et qui, par exemple, semble-t-il, à Bujumbura, ces derniers jours, a même protégé des manifestants contre la police. Et alors on peut, et là mon document le fait, mais je rappelle, et je pense qu'il faut le rappeler, c'est tout à fait spéculatif, je n'ai aucune information qui me permet de dire que ceci va se produire, on pourrait aller vers des scénarios du pire, une guerre civile au Burundi, des centaines de milliers de personnes déplacées, réfugiées à l'étranger, notamment au Congo, et en premier lieu au Sud-Kivu, où il y a d'autres mouvements armés, pas seulement burundais, mais également congolais, dont certains ne sont pas très actifs aujourd'hui, mais qui pourraient le redevenir, voire même une extension de cette instabilité vers le Nord Kivu.
Professeur.
Il y a eu, et c'est probablement le fruit du hasard, mais il y a au moins des rumeurs, et peut-être la réalité d'incursion de l'armée rwandaise et d'une ressuscitation du M23, peut-être sous un autre nom, au Nord Kivu. Donc,
professeur,
je n'exclus pas, mais c'est vraiment l'hypothèse du pire, je n'exclus pas qu'on vivra à nouveau une extension régionale d'un problème qui est essentiellement national, en l'occurrence burundais. Mais n'oublions pas que entre 1996 et 2003, on a vu les effets de l'extension d'une autre guerre civile, en
professeur,
particulier la guerre civile rwandaise au Congo, qui
professeur
a d'ailleurs
Philippe.
Provoqué la chute du, qui a contribué à la chute du président Mobutu, qui a par la suite contribué à la relance de la guerre civile, et qui n'est toujours pas tout à fait terminée, puisque nous avons vu jusqu'il y a 2 ans les activités d'un mouvement comme le M23.
Et donc, professeur, vous avez évoqué un aspect important, la police qui semble être totalement acquise à la cause du président Nkurunziza et l'armée qui protège les manifestants. Est-ce qu'on ne serait pas là dans un scénario un peu similaire à celui du Burkina Faso?
Oh, je pense qu'il ne faut jamais comparer les situations. Le Burkina n'est pas le Burundi, tout comme le Burundi n'est pas le Congo, et certainement pas le Rwanda, puisque mon collègue de Kinshasa évoquait un phénomène ou un thème qui me paraît extrêmement important. Avant d'aborder la question que vous avez posée, je voudrais tout de même en dire un mot rapide. Le cas du Burundi sera dans la région un précédent extrêmement important. Ainsi, le président Nkurunziza, en dépit de la Constitution, parvient à se faire réélire. Et que ceci est accepté à force de fatigue, de répression, etc., tant par la société civile et l'opposition burundaise que par la communauté internationale, ce sera un signal extrêmement fort dans la région. Nous avons l'année prochaine une élection présidentielle chez vous, au Congo. Le président Kabila ne peut pas, dans l'état actuel de la Constitution, se représenter. Et nous avons, en 2017, dans 2 ans à peine, nous avons une élection présidentielle au Rwanda où il est très clair que le président Kagame, lui aussi, ne peut pas être candidat à un nouveau mandat. La Constitution l'interdit très explicitement. Il est évident, et vous avez évoqué, ou mon collègue a évoqué Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, situation très comparable, il est très clair que si la situation au Burundi devait évoluer dans le sens
Merci.
D'une tolérance d'une continuation du mandat du président Nkurunziza de façon inconstitutionnelle, cela donnerait évidemment des idées à ses pairs, à ses collègues dans la région.
Merci,
maintenant,
professeur.
Pour revenir à votre question, la situation n'est pas la même
très rapidement, je vous en prie.
Au Burundi, mais il y a en effet des similitudes. Je crains, par exemple, un des scénarios auxquels je pense, ce serait par exemple que il y aurait des erreurs ou des combats entre la police et l'armée, par exemple, voire même, ce qui serait un scénario encore plus désastreux, que l'armée se scindrait, que certaines unités de l'armée ou certains éléments dans des unités de l'armée appuieraient le président Nkurunziza.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir monsieur et bonsoir auditeurs et auditrices.
Merci professeur. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous avez suivi les analyses des professeurs Philippe Rétiens ainsi que le professeur Félicien Kabamba. Comment vous analysez la situation au Burundi?
Merci. Je vous prie d'abord de m'excuser parce que nous avons eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Maintenant, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Je voulais d'emblée dire que je reviens de Burundi hier dans la matinée où j'ai passé beaucoup de temps au Burundi en train d'analyser la situation sur place. Il y a deux choses qui doivent absolument être dites. La première, c'est qu'il y a manifestement une structuration au niveau de la société civile qui est fortement impliquée dans les processus de revendication contre un troisième mandat de Nkurunziza. Et ça se manifeste aussi bien au niveau de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs aussi, il faut souligner qu'il y a des tendances nouvelles que l'on observe au niveau de la société burundaise, c'est que le clivage ethnique est en train de s'estomper de plus en plus entre les Hutus et les Tutsis, et on assiste de plus en plus à un débat beaucoup plus politique plutôt qu'à une lecture ethnique, même si l'on peut douter que la dimension ethnique peut à nouveau ressurgir, parce que quand on réveille le vieux démon, il y a toujours moyen qu'il puisse y avoir des massacres, ainsi que des massacres à grande échelle. Alors, cela étant dit, il va de soi que le président Nkurunziza a engagé un bras de fer entre ceux qui ne veulent pas de son mandat et lui-même qui veut se représenter. Je pense qu'il va avoir fort à faire pour arriver à faire accréditer sa thèse de pouvoir se représenter quand même malgré les dispositions légales et malgré l'opposition de la société civile, de l'opposition de l'Église et de beaucoup de forces politiques et même au sein même de ses propres partisans. Et je crois que ce bras de fer, malheureusement, risque de durer assez longtemps pour la bonne et simple raison que l'on remarque qu'il y a quand même un noyau dur qui se constitue tout autour de Nkurunziza, et tant que ce noyau dur aura l'impression qu'il tienne le pays, c'est-à-dire qu'il tienne essentiellement les forces armées et la police, il sera pour eux difficile d'admettre de changer de position, c'est-à-dire changer la candidature de Nkurunziza à un troisième mandat. Donc je pense qu'il faut s'attendre malheureusement à une active et avec beaucoup de massacres. Et puis je voudrais aussi remettre en compte un deuxième élément qui est important dans la région, qui concerne la dimension régionale. Et la dimension régionale, de manière claire, sans ambiguïté, le Rwanda qui a beaucoup à dire dans la... Puisque vous devez savoir que beaucoup des forces politiques au Burundi ont des liens plus ou moins étroits et ou bien ont signé des accords avec des FDLR que vous connaissez tous et à l'animosité légendaire du régime Kagame contre les FDLR. Et donc on peut s'imaginer que le Rwanda n'a pas nécessairement envie de voir certaines élites politiques émerger au Burundi, ce qui pourrait constituer un appel d'air important de toute une série de troupes des anciens génocidaires vers le Burundi, qui pourrait constituer un terreau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable et beaucoup plus durable pour ces troupes pour réattaquer le Rwanda. Et donc le Rwanda pourrait être déstabilisé beaucoup plus de manière plus durable et de manière importante si effectivement, certaines élites politiques qui n'ont pas nécessairement de lien de coopération étroit avec le régime de Kigali. Alors, je voudrais aussi souligner sur la question liée au Congo. Vous devez savoir que dans toute la plaine de la Rosizi, il y a effectivement toute une série de dynamiques qui existent entre, d'une part, les Barundi et les Bafuleros, contre les Bafuleros et contre d'autres ethnies qui se disputent la plaine au niveau de la petite chefferie. Et en ayant l'inconvénient qu'il puisse y avoir l'arrivée des réfugiés qui pourraient arriver avec certaines forces milices dont on sait qu'ils sont déjà constitués, notamment les FNL, cela risque de pouvoir embraser cette région et entraîner, comme l'a dit le professeur Reintjens, dans une guerre qui serait une guerre régionale dans laquelle fatalement la RDC sera impliquée et le Rwanda aussi impliqué qu'on le veuille ou pas.
Professeur, qu'est-ce que vous répondez à ces analyses, à certains analystes qui pensent, contrairement à ce que vous avez dit, par exemple, en parlant de nouvelles tendances, que les clivages ethniques seraient en train de s'estomper? Il y a des analystes qui pensent plutôt que l'on pourrait tendre, je suis bien au conditionnel, que l'on pourrait tendre vers un autre génocide au Burundi.
Alors, le contexte que j'ai observé sur place au Burundi et surtout les manifestations que j'ai pu voir dans lesquelles je suis... Il ressort de manière claire, sans ambiguïté, que c'est aussi bien Hutu, des Tutsis, etc., qui, des Twa, qui manifestent à Bujumbura. C'est aussi bien des jeunes qui dépassent le clivage ethnique qui sont dans les rues. Et vous vous souvenez aussi, lorsque l'on a libéré... il y a quelques mois, et c'est plutôt d'un plus de journalistes a été accompagné par les populations civiles, par les paysans, depuis Moravia jusqu'à Bujumbura, à Bié, et c'était tout fondu, aussi bien des Hutus que des Tutsis, aussi bien que des classes politiques d'autres tendances, mais aussi bien aussi les classes sociales différentes qui participent. De ce que j'ai observé, c'est beaucoup tension vraiment multi et qui dépasse le cadre ethnique.
Merci.
Mais alors cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir génocide, puisque vous avez les milices claires qui sont constituées du parti au pouvoir. Ces milices ne vont pas s'attaquer directement, je pense, à uniquement une ethnie, mais ils vont s'attaquer directement à tous ceux qui s'opposent à leur projet de pérennisation du régime kourdistan.
Merci.
Et alors, il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas oublier.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Vous allez parler de l'autre dimension. Professeur Félicien Kabamba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Papi Kassema à Kinshasa. L'entrée des Burundi à l'Est est une bombe à retardement pour notre pays. Il s'agit de voir le cas des FDLR pour bien s'en attirer. Et l'argument selon lequel les cas du Rwanda et du Burundi sont incomparables et c'est perfectatoire, car si l'on soutient que la RDC était contrainte à recevoir les Rwandais armés, rien ne rassure aussi que les Burundais qui sont entrés chez nous sans contrôle ne sont pas armés. Ainsi donc, cette affaire doit être traitée avec beaucoup de volonté politique et de prudence parce qu'il y a éminent risque de l'œil de retomber négatif sur la gestion des affaires internes de notre pays. La communauté internationale a aussi un grand rôle à jouer quant à ça, parce qu'elle a une grande responsabilité à ce qui concerne les guerres qui sévissent à l'est de notre pays.
Professeur, cette affaire doit être traitée avec beaucoup de volonté politique et de prudence. Quel est votre avis?
Oui, je crois que la plupart d'intervenants sont revenus sur la dimension régionale de ce conflit. Et un conflit qui, s'il n'est pas bien géré aujourd'hui, eh bien, il pourra devenir assez difficile à gérer demain. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que l'État congolais, mais aussi tous les autres États de la région, doivent s'impliquer pour une solution durable à ce qui apparaît aujourd'hui comme étant véritablement le futur conflit de la région de la Grande Lac d'Orde, donc demain. Ce qui est aussi vrai aujourd'hui, c'est que si on laisse pourrir la situation, je crois très sincèrement que demain, on ne sera pas à mesure de la gérer. Et il faudrait absolument une implication à la fois de la RDC, du Rwanda, de la Tanzanie et des autres États de la région pour trouver une solution. C'est l'unique manière pour nous d'éviter les pires.
Alors, professeur, Maître Papi Kassema évoque également le rôle de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle devrait faire ici et maintenant?
Mais je crois qu'on a suivi les réactions des États-Unis, on a suivi les réactions des États européens sur la situation, qui essaient d'interpeller les politiques burundaises pour qu'il y ait un respect des textes. On n'est pas très certain qu'ils seront entendus. Il faut également à cela une véritable pression intérieure, et voilà pourquoi on a parlé d'une appropriation du combat politique et je crois que vous avez suivi le professeur Bob Kabamba qui a été sur place et qui a relevé en fait important, c'est que c'est pas seulement l'ethnie de Tutsi qui s'est mis en route contre la troisième candidature, mais il ne semble pas voir là un mouvement ethnique allant dans le sens d'une opposition, et donc il y a là une prise de conscience qui n'a pas de borne ethnique, et ça c'est véritablement une prise en charge de la question par les forces sociales, et il me semble que cela est important, ça pourra avoir un impact significatif sur l'évolution de la situation sur terrain.
Professeur Reitien, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Crispin Alibo, le Dungo, province orientale. Face à cette crise burundaise, une épidémie électorale dans la sous-région en général, j'ai l'impression qu'il aurait à la base une conception du pouvoir politique africain calqué sur le modèle coutumier. Être intronisé chef, un privilège pour la vie. Surtout si l'on y est confirmé par les urnes. Cependant, comme en principe le pouvoir s'arrache, cela ne justifie-t-il pas aussi cette tendance absolutiste du Léviathan, croire s'éterniser au pouvoir parce qu'il y aurait eu une ou deux fois l'approbation du peuple par les urnes? S'il en est ainsi, l'Africain, ontologiquement, ne serait-il pas absolutiste que démocrate?
Réaction, professeur. L'Africain ne serait-il pas absolutiste que démocrate?
Je ne le pense pas. Il est évident qu'il y a peut-être un relent de coutumes précoloniales, mais n'oublions pas que la période précoloniale date d'il y a plus d'un siècle. Hein. Je pense qu'il y a des motivations beaucoup plus modernes que ce qu'on appelle parfois la coutume, ce qui donne un air un peu culturaliste à toute cette discussion. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus moderne. Le pouvoir en Afrique en particulier, dans une situation de rareté économique, et d'incertitude et de statut aléatoire, le pouvoir politique est extrêmement important, pas seulement pour celui qui est le président de la République, mais également pour tout ce groupe, toute cette cour, si vous voulez, qui gravite autour de lui ou autour d'elle. En général, c'est lui, bien évidemment. Mais n'oublions pas non plus que ce phénomène n'est pas uniquement ou exclusivement africain. Rappelez-vous, on l'oublie trop souvent, le truc en République russe, hein, Poutine-Medvedev, l'objectif étant de permettre au président Poutine de briguer un nouveau mandat au-delà de ce qui constitutionnellement était possible. Je crois qu'il faut bien comprendre le problème de chefs d'État africains qui, primo, vivent une situation extrêmement aléatoire. Ce ne sont pas des hommes forts, ce sont des hommes relativement faibles, d'une part. Et d'autre part, ils sont, je pense, très souvent, et j'en ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps, dans un autre pays d'Afrique que je ne citerai pas, mais dans le cadre de contacts tout à fait directs avec l'entourage d'un chef d'État, qui se posait la question, est-ce que je peux partir, est-ce que je dois partir, où cet entourage évoquait surtout le problème de ceux qui sont autour de lui, parce que le président de la République peut partir, il peut soit, comme au Burundi, devenir sénateur respecté par tout le monde, soit il peut partir en exil s'il le veut, mais ceux qui restent, et il s'agit là pas de centaines de personnes, mais de milliers de personnes qui dépendent, dont les privilèges, l'impunité, les fonctions dépendent en fait de la position de leurs membres de la famille dans un sens très élargi du terme, pour cela l'enjeu est encore beaucoup plus important. Donc partir, quitter le pouvoir en Afrique, pour des raisons qui sont peut-être en très grande partie économiques plutôt que culturelles, c'est extrêmement difficile.
Merci professeur. Professeur Bob Kabamba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
C'est Bruno Kalunga depuis Lubumbashi au Katanga. Ce qui se passe au Burundi est déplorable. Mais j'aimerais savoir pourquoi la communauté internationale pointe du doigt au président Pierre Nkurunziza. car la faute revient au médiateur des accords d'Arusha, parce que il devait préciser que la première phase du mandat était une transition votée par l'Assemblée nationale, puis dans un laps de temps, il devait organiser les élections dont le président Nkurunziza a tous gain de cause aujourd'hui, par le prescrit de la loi à son article 85 de la Constitution, qui ne réserve que deux mandats par le scrutin direct non renouvelable.
Réaction, professeur Bob Kabamba. La communauté internationale, je posais la même question au professeur Félicien Kabamba. Qu'est-ce que la communauté internationale devrait faire ici et maintenant pour éviter le pire? Dans son analyse, le professeur Etiens dit, je cite, « La communauté régionale et internationale doit par conséquent dire très clairement que cela est inacceptable et que la conséquence sera des sanctions extrêmement sévères contre Nkurunziza et ceux qui les soutiennent dans cette aventure potentiellement mortelle, professeur. » Professeur Bob Kabamba, voilà, je crois que nous l'avons perdu. Je reçois dans ce studio Berry Franklin Luchaka. Berry, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Berry, vous avez recueilli quelques réactions des auditeurs ainsi que des internautes.
En tout cas, il y en a plusieurs. Hein.
Voilà,
alors on va lire quelques-uns, notamment Mumbere Mbakula Agoma a dit « La plupart des leaders africains nous causent la honte. Bien que toutes les constitutions des pays africains stipulent que le mandat du chef de l'État est renouvelable une seule fois, certains présidents refusent de quitter le pouvoir. » Quelle forme de régime doit-on prendre en Afrique? C'est la question qu'il pose. Kairi Matembera à Kalemi dit qu'il pense que le peuple burundais devrait attendre les réactions des autres institutions d'appui à la démocratie, comme par exemple la commission électorale, la cour constitutionnelle, qui doit valider ou invalider la candidature de Pierre Nkurunziza. Et puis Christophe Bin Hassan Kilibanga, il dit, il est temps que les dirigeants africains puissent prendre conscience du malheur qui souvent frappe leur peuple suite à cette politique ignoble de vouloir toujours s'accrocher au pouvoir. On ne peut pas prétendre être le sauveur de sa population et en vouloir sa destruction. Pour cet exemple du Burundi, ceux qui sont victimes sont surtout les peuples burundais, même si cette situation n'aura pas à épargner toute la région des Grands Lacs.
Merci Berry. Professeur Félicien Kabamba, on suivait tout à l'heure la réaction que j'ai adressée au professeur Bob Kabamba. Bruno Kalunga, qui nous appelait de Lubumbashi, qui semble imputer la faute à la communauté internationale qui, pour lui, n'avait pas clairement tiré les choses concernant l'accord d'Arusha.
Non, je ne crois pas que ce soit cela, parce que l'accord d'Arusha, allé à l'article 7, il est alinéa 3, il est dit exactement ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Et j'insiste sur la dernière phrase, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Et ça, c'est l'accord d'Arusha qui le dit. Donc, c'était beaucoup plus clair. Donc, la faute n'est pas à l'accord d'Arusha. Ce que moi, je voudrais dire ici, c'est que, en fait, en réalité, le président Pierre Nkurunziza était condamné à mort en 1996 par la justice burundaise. Et c'est par les accords d'Arusha qu'il a obtenu de la justice une remise de cette peine. Et donc, du coup, il a été élu chef de l'État, mais c'était un condamné à mort, parce qu'il a été accusé d'avoir posé des mines anti-chars en pleine ville de Bujumbura. Et donc, il ne peut pas oublier ce passé. C'était la même justice, c'était les mêmes institutions burundaises qui l'avaient condamné. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas accuser les accords d'Arusha. Non. Il est véritablement un problème aujourd'hui, c'est que quand on est au pouvoir, on se sert de cet instrument qu'est la justice à sa propre faveur.
On me signale que le professeur Bob Kabamba est en ligne. Professeur, vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien. Désolé pour la mauvaise communication.
Voilà, ça ne dépend pas de vous ni de nos professeurs. Ça ne dérange pas. Professeur, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer cette émission. Que faudrait-il aujourd'hui pour sortir de l'impasse et éviter que la situation ne s'aggrave, professeur?
Malheureusement, j'ai l'impression que la situation va s'aggraver et que les forces politiques sont décidées à en découdre jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi bien le pouvoir au niveau du Burundi qu'au niveau de la société civile et des membres de l'opposition. Je pense qu'il faudra se résoudre à ce qu'il puisse y avoir des massacres ainsi que des événements malheureusement malheureux sur lesquels les populations vont être les premières victimes. Et donc en termes d'action, au-delà même des actions et des sanctions que peut prendre la communauté internationale, je ne pense pas que la dynamique de retour en arrière sera encore possible, parce que l'équipe au pouvoir pourra vivre ça comme un échec, et ce qui pourrait avoir des conséquences assez néfastes par rapport à eux. Et donc de mon point de vue, de manière claire, sans ambiguïté, c'est essayer que le CNDD-FDD puisse arriver à choisir un autre candidat qui puisse être conciliant par rapport aux différentes forces en présence. N'oubliez pas non plus que le CNDD contrôle l'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire aussi bien les forces sécuritaires que tout l'appareil financier est aux mains donc du CNDD. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être vraiment compliqué et la marge de manœuvre de la communauté internationale est assez limitée.
Professeur Reitiens, il y a Thierry Virculon d'International Crisis Group qui est intervenu ce matin sur RFI qui a déclaré, je cite, on peut dire malheureusement que l'accord d'Arusha est mort ce week-end quand le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature, et parmi les solutions pour apaiser le climat politique, il propose notamment que l'on relâche Pierre Claver Mbonimpa, l'activiste de droits de l'homme, et que l'État, que le gouvernement burundais puisse libérer les médias fermés, notamment la radio publique africaine RPA, mais aussi Isanganiro Bonesha FM.
Oui, ça c'est la moindre des choses, bien évidemment, parce que ces mesures sont illégales, donc il faut évidemment que les radios puissent émettre en toute liberté, que le journaliste puisse travailler en toute tranquillité, ça me paraît évident. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Bob Kabamba, mais je pense aussi qu'il ne faut pas à ce stade-ci être trop optimiste, parce que ça devient une prophétie qui s'autoréalise, hein. Je crains en effet que le retour en arrière pour le président Nkurunziza risque d'être difficile, puisqu'il vient d'être désigné comme candidat par son parti. Mais on pourrait peut-être envisager, avec des bons conseils pour ne pas parler de pressions internationales, de la possibilité pour le CNDD-FDD de revenir sur ses pas et de proposer un candidat de consensus. Ce qui, d'abord, désamorcerait la bombe qu'on voit aujourd'hui au Burundi, mais qui, en plus, permettrait de réunifier le parti, parce que le parti est scindé aujourd'hui. Et donc, le parti CNDD-FDD, si cela se fait, pourrait redevenir la force politique principale. Il ne faut pas non plus oublier les possibilités institutionnelles. Il y a au Burundi une commission électorale nationale indépendante, il y a une cour constitutionnelle. Ces deux institutions seront peut-être appelées à se prononcer là-dessus. Il y a d'ailleurs une saisine de 14 sénateurs de la cour constitutionnelle qui demande à cette cour de se prononcer sur le caractère constitutionnel de la candidature de Nkurunziza. J'ajoute d'ailleurs que cette demande vient de sénateurs qui lui sont acquis et que leur idée est probablement que la Cour constitutionnelle approuvera. Ensuite, il ne faut pas non plus négliger la voie de la médiation. Les Burundis sont des gens tout de même raisonnables qui parfois sont ouverts au compromis. Et peut-être, en dernier ressort, il faut envisager les sanctions.
Merci.
Qui ont été de façon assez claire, je crois, annoncées par le département d'État des États-Unis. J'espère
Merci,
qu'on ne va pas en arriver là et que ce seront les Burundais eux-mêmes.
Merci, professeur Souffret, que je vous arrête par là. Il nous reste moins d'une minute. Professeur Félicien Kabamba, doit-on craindre le pire ou l'on devrait espérer?
Malheureusement, pour le moment, on est en train de craindre le pire. Mais je crois qu'on n'est plus à l'époque du président Savi. Il faut tourner la page du président Savi. Il faut absolument que le parti de Nkurunziza désigne un autre candidat.
Professeur Bob Kabamba, qu'est-ce que pour vous on peut retenir en guise de conclusion?
En guise de conclusion, je pense que la solution est aux mains du président Paul Kagame. La direction que la décision que prendra Paul Kagame va dépendre de l'issue de la dynamique régionale.
Et en un mot, professeur, qu'est-ce que la décision du président Paul Kagame pourrait avoir comme influence sur la situation au Burundi? Voilà, malheureusement, le professeur Bob Kabamba n'est plus en ligne. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Kevin Kouté, Berry Franklin Luchaka qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde. La supervision était assurée par Ben Kabamba. Présentation et coordination, Alain Rongmouchi. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net ou la réécouter demain à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir. Yeah.